écologique,
inclusif,
solidaire,
sportif.
Vous êtes sur Prune
et vous écoutez Ecosoli Sport,
l'émission des 4F du collège Gérard-Philippe
de Carquefou.
Bonjour à toutes et tous, je suis Guillaume, animateur de l'émission, et je suis accompagné de Lila, bonjour.
Bonjour et bienvenue dans notre émission spéciale. Aujourd'hui, on se demande en quoi le sport favorise le bien vivre ensemble. Mais c'est un sujet assez vague. Guillaume, dis-nous en plus sur le programme d'aujourd'hui.
Tout à fait. Nos chroniqueurs et chroniqueuses ont développé 4 thématiques en particulier. D'abord, le rôle du sport dans les conflits présentés par Paulin, Gabriel et Paolo, qui nous expliqueront que certaines nations ont réussi à se rapprocher grâce au sport. Nous vous ferons aussi découvrir le handisport avec le groupe de Flora, Clémence, nos deux Chloé et Anouk. Nous verrons que c'est une bonne façon de rendre la société plus inclusive. Ensuite, nous parlerons des transports doux. On expliquera notamment que le vélo peut être une activité collective. Ce sera Axel, Hugo, Nathalie et Alix. Enfin, nous verrons avec Azilise, Méline, Antoine et Maloriane qu'il y a encore beaucoup d'inégalités dans le sport et donc des choses à changer pour éviter le sexisme et favoriser le bien vivre ensemble. Et bien sûr, ne manquez pas notre interview inédite pour parler d'un sport qui permet aux personnes en situation de handicap et aux personnes valides de jouer ensemble. Ça s'appelle le basket et nous accueillerons Anthony Penaud qui pratique ce sport pour nous en parler.
Merci Guillaume. Nous allons tout de suite passer à la première chronique qui est le rôle du sport dans les conflits en accueillant Paulin, Gabriel et Paolo.
Bonjour tout le monde. Nous savons qu'en ce moment même, la Russie et l'Ukraine sont en état de guerre. On remarque que beaucoup de sportifs se sont prononcés contre cette guerre. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le sport pourrait rapprocher certaines nations ou calmer certaines tensions entre les États ? Pour commencer, nous pouvons nous intéresser de plus près aux Jeux Olympiques, et plus particulièrement à leurs origines. Peux-tu nous en dire plus sur le sujet, Paolo ?
Oui, bien sûr. La création des JO remonte à la Grèce antique. Des jeux étaient organisés pour arrêter les conflits qui déchiraient les cités grecques. Durant ces jeux, les combats étaient interdits. On appelle cela la trêve olympique. Et elle a encore lieu lors des Jeux olympiques et paralympiques d'été et d'hiver. Nous pouvons donc voir que déjà, à l'époque, le sport pouvait ressouder les liens entre certains peuples. Maintenant, voici un autre exemple avec Gabriel.
Merci Paolo. Le 25 décembre 1914, en pleine guerre mondiale, alors que l'Allemagne et l'Angleterre sont en conflit, des soldats des deux nations auraient joué un match de football ensemble sur les terres belges. Et ils se seraient même offert des cadeaux sur le No Man's Land pour fêter Noël. Le sport est donc quelque chose de très fort. Des soldats ennemis et affaiblis par la guerre ont réussi à passer un moment de plaisir grâce à lui. Maintenant, allons donc voir du côté du continent africain avec Paulin qui va nous en dire plus là-dessus.
Eh oui, en 1995, l'équipe d'Afrique du Sud de rugby gagne la Coupe du Monde. C'est une victoire très symbolique après l'apartheid. Surtout grâce à Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain, qui remet le trophée au capitaine de l'équipe, un joueur de couleur blanche.
Très bien Paulin, mais pouvez-vous expliquer à nos auditeurs ce qu'est l'apartheid ?
Mais bien sûr, l'apartheid était une politique qui régnait en Afrique du Sud pendant le XXe siècle. Elle visait à séparer les personnes selon leur couleur de peau, leurs origines, etc. C'est d'ailleurs Nelson Mandela qui a aboli ce système. J'espère que tout le monde y voit maintenant plus clair.
Merci Paulin. Je dois avouer que je ne savais pas vraiment ce que c'était. À présent, laissons place à Gabriel qui va conclure tout cela.
Alors, chers auditeurs, chères auditrices, grâce à tous ces exemples très joyeux, êtes-vous en mesure de répondre à la question de départ ? Ou peut-être même vous, Guillaume ou Lila ? Eh bien, en tout cas, moi, je pense avoir la réponse. Je pense bien évidemment que le sport peut rapprocher les nations, les peuples, les habitants de pays différents. Je pense que le sport est capable de cela et j'espère qu'il le fera pour la Russie et l'Ukraine. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt.
Merci Paolo, Gabriel et Paulin de nous avoir éclairés sur ce sujet intéressant.
Parlons maintenant du handisport avec le groupe de Flora, Clémence, nos deux Chloé et Anouk. Et c'est Flora qui commence en nous parlant d'un handisport que vous ne connaissez peut-être pas.
Image
origine un mélange entre le handball, le rugby et le hockey qui permet aux personnes à mobilité réduite de pratiquer du sport.
Ça existe vraiment ?
Oui, tout à fait, et ça s'appelle le rugby fauteuil. C'est un handisport mixte qui est apparu en 1976 au Canada. Celui-ci est pratiqué en fauteuil roulant par des personnes en situation de handicap physique atteint des membres inférieurs et supérieurs.
Et il y a des compétitions ?
Oui, bien sûr, Clémence. Le rugby fauteuil est apparu aux Jeux paralympiques en 2000. Est-ce que vous savez qui est le fondateur des Jeux paralympiques ?
Non, je ne sais pas. Peut-être Pierre de Coubertin ?
Et non, perdu, Chloé. Pierre de Coubertin a relancé les JO en 1894, mais c'est Ludwig Guttmann qui a fondé les Jeux paralympiques en 1960.
Dis-moi, Flora, est-ce qu'il y a des équipes de rugby fauteuil dans la région ?
Oui, par exemple, à Carquefou, près de Nantes, il y a une équipe surnommée les Mambas au club de l'Atlantique rugby fauteuil. Ils ont d'ailleurs participé au championnat de France en 2012.
Il existe depuis quand, ce club, Flora ?
Il a été créé en 2006 par Sébastien Lhuissier. Et vous, est-ce que l'une de vous deux connaît un handisport ?
Oui, une fois, moi j'ai joué au torball.
Ah, j'en ai déjà entendu parler.
Je ne connais pas ce sport, c'était bien ?
Oui, j'ai adoré, mais c'était compliqué. Ce sport est fait pour les personnes malvoyantes ou aveugles, donc on portait des masques et on ne pouvait se fier qu'à nos oreilles pour attraper le ballon.
Ah oui ? Alors tu fais comment pour repérer le ballon ?
Je crois qu'il y a des clochettes dedans pour pouvoir l'attraper plus facilement.
Oui, c'est ça, Chloé.
C'est quoi le but ?
L'objectif est de marquer le plus de buts possible. Les attaquants doivent, pour cela, lancer le ballon à la main sous une corde sonore. Mais l'équipe adverse, à genoux derrière la corde, cherche à empêcher le ballon de passer en le déviant ou en l'arrêtant. Le torball se joue avec deux équipes constituées de trois joueurs chacune et il est interdit de communiquer avec ses coéquipiers.
Depuis quand ça existe, le torball ?
Il a été inventé en 1965, en Allemagne, pour la rééducation des blessés de guerre. Il n'est apparu en France qu'à partir de 1970, mais est très apprécié des Français.
S'il est aussi populaire, il doit y avoir des compétitions ?
Évidemment, Flora. La première compétition nationale s'est déroulée en 1988, mais ce sport ne fait pas partie des Jeux paralympiques, car il existe un autre sport pour malvoyants. Le goalball, qui lui ressemble beaucoup et qui est déjà reconnu dans ces jeux.
Est-ce que j'aurai le droit de participer à des compétitions, même si je ne suis ni malvoyante ni aveugle ?
Eh bien oui, car depuis 2005, les personnes valides sont autorisées à participer à des compétitions, à la seule condition de porter un masque sur leurs yeux.
Ah, je trouve ça super qu'on puisse faire une équipe constituée de personnes en situation de handicap et de personnes sans handicap.
Oui, moi aussi. D'ailleurs, j'aimerais bien en intégrer une. Ça vous tente ?
Trop bonne idée, Clémence. Je pense que ça peut aider à mieux comprendre les personnes à mobilité réduite en se mettant dans la même situation qu'elles.
Merci pour ces explications. Toujours sur le thème du handisport, nous avons le plaisir d'accueillir Anthony Penaud pour une interview inédite sur un sport étonnant, le baskin.
Cette interview est présentée par Clémence, Antoine, Océane et Enora.
Bonjour Anthony.
Bonjour.
Merci d'être venu dans notre collège pour répondre à nos questions. Donc vous présidez l'association Auréa et êtes joueur du club de baskin de Nantes. Le baskin, c'est un sport inclusif dérivé du basket, né en 2003 à Crémone en Italie. Lorsqu'on est en situation de handicap, tout est plus compliqué et notamment l'accès au sport. Et vous, en tant que non-voyant, est-ce que cela a été un problème pour trouver un sport auquel vous pouviez jouer ?
Non, parce qu'il y a beaucoup de sports. En fait, pour les personnes non et malvoyantes, il y a beaucoup de sports. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plu, en fait, dans le baskin, bon, déjà, c'était un sport qui était proposé par l'association Auréa que je préside. C'est pour ça que c'est ce qui a fait que j'y suis venu. Mais aussi, c'est parce que j'aime bien dans ce sport-là, c'est que c'est un sport inclusif et que du coup, on peut jouer tous ensemble, hommes, femmes, personnes valides, personnes sans handicap, jeunes, moins jeunes, sportifs, de haut niveau, non sportifs. C'est vraiment qu'on peut jouer tous ensemble, valides et personnes sans handicap. Et c'est ce qui m'a plu et c'est ce qui a fait que je suis venu. Donc, que j'ai eu envie de vraiment de pratiquer ce sport.
En quoi consiste le baskin ?
Alors donc le baskin, c'est du basket accessible à tous à partir du moment où on peut lancer une balle. Ça se joue sur un terrain de basket normal, sauf qu'il y a deux paniers supplémentaires latéraux et deux zones. Et du coup, on joue à 6 contre 6 et chaque donc personne valide et personne en situation de handicap et chaque joueur ou joueuse bien sûr a un rôle avec un numéro en fonction de ses capacités. Et du coup, un match est composé de 4 cartons de 8 minutes.
Comment avez-vous découvert le baskin ?
Eh bien, en fait, j'ai découvert le baskin puisque c'est un sport qui se pratiquait dans l'association Auréa où j'étais. Donc, du coup, voilà. Non. En fait, on a deux bénévoles de l'association qui sont allés se former au baskin. Elles nous ont proposé ce sport-là. Alors, c'est vrai que la première année, je ne connaissais pas. Et donc, je n'y suis pas venu de la première année que ça s'est créé. À Nantes, ça, c'est depuis 2011. Et moi, j'y suis venu, en fait, c'est en 2012 que j'ai eu envie, du coup, d'essayer ce sport. Et ça m'a beaucoup plu. Donc, maintenant, je le pratique depuis 2012.
Le matériel est-il différent du basket ?
Non, à part, au niveau du matériel, il y a quelque chose qui sont différentes. Entre autres, du coup, c'est qu'il y a deux paniers supplémentaires latéraux. Il y a deux zones. Et puis, ce qui peut être différent aussi, c'est si, par exemple, il y a des joueurs, du fait de leur handicap, qui ne peuvent pas avoir un ballon normal, il peut avoir des petits ballons pour des personnes qui auraient difficulté à tenir le ballon de basket normal.
Quel est le déroulement d'un match de basket ?
Eh bien, ça se déroule, comme je le disais, donc en quatre quart-temps de 8 minutes.
Comment sont faites les équipes ? Sont-elles équilibrées ?
Alors, oui. Alors, je vous ai expliqué la composition d'une équipe. Alors déjà, en fait, au niveau de l'équipe, par rapport au numéro des rôles, donc ça ne doit pas dépasser 23 sur le terrain. Chaque joueur a un numéro en fonction de son rôle. Donc, il y a donc le numéro 5, qui est quelqu'un qui maîtrise bien les règles du basket. Il a le droit à 3 tirs dans le match. Autrement, il y a le numéro 4, qui est une personne valide, qui peut bien courir et bien dribbler. Le rôle numéro 3, qui lui va être une personne du coup, qui va avoir un handicap, qui ne pourra pas dribbler et marcher en même temps, qui pourra pas faire plusieurs mouvements en même temps, mais qui pourra quand même jouer au basket. Et puis après, du coup, il y a donc ce qu'on appelle les pivots, alors que nous qui sommes dans une zone, c'est les rôles 2 et 1. Donc les pivots, c'est les personnes qui ont un handicap, qui sont non-voyants, ou qui peuvent être en fauteuil roulant, qui ont des difficultés de repérage. Et les rôles 1, ce sont des personnes qui n'auront pas suffisamment de force pour du coup tirer dans le panier du haut, mais qui pourront, du coup, qui seront en fauteuil, mais qui pourront aussi faire du basket.
Quelles sont les stratégies que vous utilisez pendant un match ?
Je suis donc en joueur pivot, je suis donc sur la zone, en rôle 2 tuteur. Et du coup, à un moment, mes coéquipiers me placent au niveau du panier, me donnent le ballon. Et du coup, quand mon coéquipier vient, j'ai 10 secondes pour tirer. Donc mon coéquipier me place au niveau du panier, il me donne la balle. Et après, mon coéquipier se met en dessous le panier, il frappe dans ses mains. Et après, c'est en fonction du frappement de main que moi, je dois du coup essayer de marquer des paniers. Et généralement, je réussis. Alors, je ne marque pas des paniers à chaque fois, mais je réussis à en marquer.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport ?
C'est du coup qu'on puisse jouer tous ensemble, personnes valides, personnes en situation de handicap. Et ce que j'aime bien dans ce sport surtout, c'est que chacun joue comme il est. En fait. Et une personne valide, du coup, elle n'a pas besoin d'être en situation de handicap, elle joue comme elle est. Et c'est ça qui me plaît dans ce sport, c'est vraiment qu'on puisse tous jouer ensemble. C'est vraiment un sport qui s'adapte aux capacités de chacun et de chacune, et c'est ce qui me plaît en fait.
Est-il possible d'assister à des matchs ?
Bien sûr, oui. On a des entraînements qui ont lieu donc tous les mercredis hors vacances scolaires de 19h à 20h30 au gymnase de la Ripossière à Nantes. Il y a aussi un entraînement qui a lieu tous les vendredis hors vacances scolaires de 17h30 à 19h du coup au gymnase Alice Minia aux Sorinières. Et donc on fait un mini tournoi généralement le premier samedi des vacances scolaires et puis le premier samedi du mois donc au gymnase de la Ripossière. On fait aussi du mini basket pour de 15h30 à 16h30 pour les enfants de 8 à 13 ans et après c'est suivi de basket pour les 3 à 6 ans. Donc si jamais vous voulez assister à un entraînement, un match de basket ou essayer le basket, eh bien n'hésitez pas à nous contacter, hein. On se fera un plaisir de vous accueillir et de vous faire essayer le basket et si ça vous plaît, de vous accueillir dans nos équipes.
Le basket n'est pas aux Jeux Paralympiques, mais y a-t-il une chance que ce sport en fasse partie ?
Eh bien, on l'espère un jour. J'espère que dans quelques années, on pourra voir du basket non seulement aux Jeux Paralympiques et qu'on pourra aussi plus le voir à la télé et partout.
En quoi ce sport permet-il de bien vivre ensemble ?
Du coup, le fait en fait, on puisse jouer tous ensemble, personnes valides et personnes sans handicap, le basket c'est vraiment un sport d'entraide, de mixité, vraiment pour moi de bien vivre ensemble, quelles que soient nos capacités, c'est vraiment très bien.
En plus de votre activité sportive, vous êtes également président de l'association Auréa. Quelles sont vos motivations pour être président de l'association Auréa?
Eh bien, en fait, moi, au début, j'étais simple adhérent. Après, j'ai été bénévole. Et puis, du coup, je suis entré dans le conseil d'administration. Et puis, un jour, j'avais vu ce que faisaient les autres présidents avant. Ça m'a intéressé. Du fait que je n'ai pas d'emploi pour l'instant, j'ai beaucoup de disponibilité. Donc, du coup, j'ai voulu être président pour aider l'association. Mais en tout cas, moi, je suis président, mais ce n'est pas moi qui dirige du tout. On est une équipe. Et au niveau de notre conseil d'administration, on prend toutes les décisions en collégial. Donc je suis président, mais nous, on fonctionne en équipe.
Quelles sont les autres activités de l'association Auréa?
Alors donc, Auréa, il y a le premier rôle, c'est le baskin. Autrement, on sensibilise le public valide à tous les types de handicap sous forme de mise en situation concrète. Puisque nous, en fait, à Auréa, on pense qu'une personne valide, du coup, ça sera plus facile de nous poser une question et d'échanger avec nous si elle a vécu une situation. Donc on fait le témoignage après, mais nous, on commence toujours par la mise en situation et après, on fait l'échange. Donc ça peut être des ateliers braille, ça peut être jeux sous bandeau, technique de guide voyant, ça peut être des parcours fauteuil, initiation langue des signes. On a aussi, parce que c'est difficile de sensibiliser au handicap, de mettre les personnes dans ce centre d'handicap mental, on a un jeu de rôle, on a un quiz avec des défis, donc ça c'est pour les sensibilisations. On a d'autres pôles, autrement on a un pôle convivial et on a aussi un pôle projet européen. On développe des projets européens et on participe aussi, on essaie de se tenir au courant et participer aussi à des projets, aux projets européens en lien avec mixité, personnes valides et personnes en situation de handicap.
Trouvez-vous que le sport est encore trop peu accessible pour les personnes en situation de handicap?
Moi, je pense qu'il y a quand même des gros progrès qui se sont faits quand même depuis que, même s'il y a encore des choses à faire, je pense que maintenant, il y a quand même beaucoup de sport quand même accessible quand même au handicap.
Et une toute dernière question pour tous nos auditeurs qui habitent la région nantaise et qui souhaiteraient découvrir ce sport. Comment peuvent-ils faire?
N'hésitez pas à venir, à nos entraînements. Allez voir notre site. Donc, c'est le site internet www.asso-aurea.fr. Et bien sûr, on se fera un plaisir de vous accueillir dans nos équipes, si vous le souhaitez.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir fait découvrir le baskin. À notre tour maintenant d'essayer d'y jouer.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
C'était un plaisir de recevoir Anthony Penaud sur ce plateau. Et pour ma part, j'ai vraiment envie de tester le baskin. Bah toi, Lila?
Si, tout à fait. Mais en attendant, nous allons écouter Eye of the Tiger, une chanson tirée de la bande originale du film Rocky. Une musique des circonstances, puisque ce film raconte la vie d'un boxeur. We'll be right back. C'était Eye of the Tiger, une chanson tirée du film Rocky. Nous sommes toujours dans notre émission spéciale sur le sport et le bien vivre ensemble. Si vous pratiquez le vélo, vous vous dites peut-être que c'est un sport solitaire. Eh bien, pas forcément. Il vous permet de faire des rencontres et en plus d'être écolo. On vous en dit plus tout de suite.
Les transports doux, c'est le sujet que l'on va aborder en écoutant Axel, Hugo, Alix et Nathaël.
Et oui Lila, aujourd'hui on va vous présenter un moyen de transport doux qui est hyper cool pour nous et la planète et qui en plus vous permet de faire plein de rencontres. C'est tout simplement des moyens de transport qui visent à réduire la pollution en faisant du sport avec des potes, famille ou seul. Et oui, vous pensez peut-être que le vélo était forcément une activité solitaire ? Pas du tout. On va voir ensemble qu'il y a plein d'occasions de se rencontrer autour du vélo, que ce soit pour du loisir ou du travail. Et je donne la parole à mon camarade Nathaël.
Ah, le vélo, tout le monde en a déjà fait. Il sert à la fois à plusieurs choses. Se déplacer, se balader, faire du sport en course ou en freestyle. Il y a du vélo pour tous les goûts.
Oui, c'est bien, mais où puis-je trouver un endroit pour pratiquer sans être tout seul ?
Pour commencer, tu peux faire partie d'une association. Il y en a dans le coin. Par exemple, à Lac Vélo Carquefou, une association de loisirs qui organise plein d'activités autour du vélo. En plus, en utilisant le vélo, vous ne polluez presque pas. Et on parle de milliers de tonnes de CO2 rejetées par une utilisation quotidienne de la voiture. Pendant un an. Le seul truc embêtant, c'est si tu casses ton vélo, le faire réparer, cela peut coûter cher.
Eh bien, figure-toi que si tu casses ton vélo, il n'y a pas besoin de dépenser 100 euros.
Attends, moi j'ai la solution. Maintenant, je vais vous parler d'une entreprise de la région qui crée du lien autour du vélo d'une façon très intéressante. Elle s'appelle Atao. Atao, c'est une entreprise sociale apprenante qui a pour but l'insertion sociale et professionnelle de personnes en situation de précarité, qui n'ont plus de travail. C'est un très grand avantage pour eux. Donc, Atao, c'est le genre d'association qui répare votre vélo et vend des vélos à un prix plus bas, parce qu'ils sont de deuxième main. Tout cela est possible grâce aux employés réinsérés. Les vélos sont entièrement démontés et rénovés. En plus, Atao permet de créer de la sociabilité en travaillant dans un lieu convivial et avec une équipe.
Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour dire
« Non, j'y vais, je m'en fiche que ce soit à 5 minutes, je prends la voiture. »
Grâce au vélo, vous pourrez moins polluer tout en faisant la même distance et en faisant une activité sportive entre amis, famille ou même seul. En plus, c'est bon pour ta santé et pour rencontrer de nouvelles personnes. Bref, choisir le vélo, c'est faire un geste pour la planète et pour ta santé. Alors, fais du vélo.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci à vous. Nous savons maintenant où rencontrer du monde tout en faisant du vélo et où le faire réparer de façon plus solidaire que chez n'importe quel réparateur.
Nous parlons sport toujours. Avez-vous remarqué qu'on voit moins de sportives que de sportifs dans les médias ? Eh bien, c'est le sujet de notre prochaine chronique, présentée par Azilise, Méline, Antoine et Maloriane.
Alors voilà, hier, alors que je cherchais à regarder une émission de sport, je me suis dit, pourquoi pas un match féminin pour une fois ? Mais y a pas moyen, je n'en trouve pas.
Oui, je suis d'accord Antoine. J'ai même lu dans un article de West France que les hommes représentent 80% des diffusions sportives contre seulement 20% pour les femmes. C'est un écart important.
Mais il n'y a pas si longtemps, c'était encore pire. En effet, en 2012, les femmes ne représentaient que 7% de ces diffusions télé. En 10 ans, les choses ont changé. Cependant, il reste beaucoup à faire.
Ah oui, c'est vrai que plusieurs chaînes, publiques comme privées, ne prennent pas en compte les demandes des téléspectateurs et ne diffusent pas assez de sport féminin. D'ailleurs, j'ai récemment vu dans un article du Figaro que la plupart de ces téléspectateurs veulent voir apparaître plus régulièrement des sportifs sur leurs écrans.
Sans parler du fait que les chaînes qui en diffusent sont souvent payantes, privées et peu regardées. Le public devrait faire plus de demandes auprès des chaînes de télévision afin d'accélérer le processus.
Et oui, la diffusion des matchs féminins rapporte peu, ce qui n'arrange pas les choses.
Mais pourquoi est-ce que le sport féminin rapporte-t-il peu par rapport au sport masculin ?
Car plus un sportif est médiatisé, plus sa popularité augmente et finit donc par rapporter de l'argent, tout est lié.
Merci Antoine, mais il reste un sujet encore que nous n'avons pas abordé. Je parle du fait que les sportifs sont bien souvent jugés sur leur apparence physique et non sur leurs compétences sportives. Dans certaines disciplines, on oblige même les sportives à mettre une tenue vestimentaire jugée plus attrayante pour le spectateur, comme des mini-jupes en badminton ou des bikinis en beach volley. Ce ne sont pas des tenues très pratiques pour faire du sport.
En plus, elles risquent d'être sanctionnées si elles refusent ou décident de s'habiller d'une façon différente. Comme par exemple l'équipe féminine norvégienne de beach handball en 2020, Ils ont même dû payer une amende de 1 500 € pour avoir porté des shorts.
Oui, les sportifs doivent encore se battre pour des droits qui ne leur sont toujours pas accordés. Mais les choses avancent progressivement. De plus en plus de chaînes telles que France 2 ou TF1 s'intéressent aux compétitions féminines. Par exemple, lors de la Coupe du monde de football féminin en 2019, les matchs des Françaises ont réuni 10 millions de téléspectateurs. Vous pouvez faire bouger les choses et nous comptons sur vous pour contribuer à cette évolution.
Vous l'avez entendu, nous comptons sur tout le monde pour faire bouger les choses. On espère y avoir un peu contribué avec cette émission. Merci à toutes et tous.
Vous êtes sur Prune.
Vous avez écouté Écosolisport,
l'émission des 4e F
du collège Gérard Philippe
de Carquefou.
Yeah.